Philippe Comte, bonjour, merci d'être avec nous à notre studio de la Garde pour une église apostolique. Vous allez nous faire découvrir l'église de Saint Thomas l'Apôtre, dit-on.
Exactement, bonjour, heureux de vous retrouver et de retrouver nos auditeurs. Effectivement, donc, nous allons aborder une église qui est assez peu connue en Occident, mais qui est en droite ligne de l'émission que nous avons eue le mois dernier, puisque nous avons abordé l'extraordinaire activité évangélisatrice en Asie de la grande église d'Orient. Donc de la Mésopotamie, d'où elle est originaire, mais qui est allée jusqu'à la Chine, l'Indonésie. Et nous avons vu également comment cet élan formidable fut malheureusement brisé, d'une part par le pouvoir politique en Chine, et d'autre part par la conversion à l'islam des peuples des steppes. Mais il subsiste cependant donc dans l'Inde du Sud, et plus spécialement dans l'état du Kerala, qu'on appelle aussi la côte Malabar, une survivance de cette aventure remarquable, donc qui est très mal connue en Occident. En effet, on peut rencontrer sur cette côte sud-ouest de l'Inde des communautés chrétiennes vieilles de 2000 ans. Ce sont des églises donc d'origine apostolique, hein, c'est-à-dire antérieures à l'arrivée des Européens dans les temps modernes, arrivées, comme on sait d'abord, par les Portugais qui ont doublé le cap de Bonne-Espérance en 1488 pour arriver justement en Asie. Ensuite les Hollandais, les Anglais, etc. Et ces chrétiens indiens tiennent souvent des positions avantageuses dans le commerce. Ils sont en contact assez étroit, les Occidentaux en contact assez étroit dès que ceux-ci sont arrivés dans la région. Alors malheureusement, des lignes de fracture nombreuses séparent aujourd'hui ces églises qui résultent principalement de cette interaction justement. Soit par adhésion plus ou moins complète aux directives et aux apports occidentaux, soit au contraire par réaction à ceux-ci. On a donc une situation aujourd'hui très complexe, hein, avec une division qu'on peut appeler matricielle, hein, suivant trois axes. Alors sur le plan théologique, on a des églises dites des deux conciles, hein, qui ne reconnaissent donc que le concile de Nicée et de Constantinople, églises qui sont un peu improprement appelées nestoriennes, dont on peut dire justement qu'elles proviennent en droite ligne de la période d'évangélisation, puisqu'elles ont été évangélisées par cette église dite nestorienne de Mésopotamie. Mais il existe aussi des églises monophysites, inspirées de l'église jacobite de Syrie, qui acceptent donc le concile d'Éphèse mais rejettent Chalcédoine, enfin des communautés qui reconnaissent l'ensemble des conciles généraux, et auxquels il faut adjoindre encore des fidèles rattachés à des églises protestantes, qui proviennent cependant de ces communautés historiques également. Si on regarde la situation rituelle, la diversité est du même ordre. On a un rite syrien oriental de tradition de l'Église d'Orient, un rite syrien occidental de l'Église jacobite de Syrie, un rite latin et un rite réformé. Et au plan hiérarchique, on a une même disparité, des églises rattachées à Rome, d'autres rattachées à des patriarcats divers en Mésopotamie ou en Syrie, et d'autres encore autocéphales qui ne reconnaissent aucune autorité supérieure. Donc situation assez chaotique, hein, qui trouve, on l'a compris, son origine dans l'histoire. Alors, quelle est cette histoire ? L'histoire des premières années de l'église du Kerala est assez mal connue. Hein. D'après la tradition, donc c'est l'année 52, l'apôtre Saint Thomas débarque à Kranganor, à l'embouchure du fleuve Périllar, et crée rapidement des communautés. 7 communautés, dit-on, au début, sont créées par lui, avant malheureusement qu'il rencontre le martyr en 72 dans la région de Madras. On a ensuite assez peu d'éléments jusqu'au 4e siècle à cette période. Et les Sassanides ont établi leur empire sur la plus grande partie du domaine de l'Église d'Orient, donc sur l'Iran, la Mésopotamie, etc. Et ont établi également le zoroastrisme comme religion de l'empire et engagé une politique de répression assez dure contre le christianisme, suspecté, comme nous l'avons vu, d'être le cheval de Troie de l'Empire romain. De ce fait, plusieurs centaines de chrétiens débarquent en 345 dans la région dite donc côte de Malabar, hein, le Kerala, arrivée qui renforce bien évidemment les communautés existantes. Ces communautés se développent ensuite durant les siècles suivants, obtenant des privilèges par les potentats locaux, et elles s'orientent ainsi de plus en plus vers le commerce, hein, comme on l'a dit, accroissant ainsi quand même leur influence sociale. Une première description des communautés chrétiennes d'Inde parvint en Occident par l'ouvrage de Constantin d'Antioche, qui s'appelle « Topographie chrétienne », écrit vers 550. Grand voyageur, il n'a vraisemblablement pas été lui-même jusqu'en Inde, hein, mais il décrit ses églises d'après des témoignages, et il rapporte l'existence d'un évêque ordonné en Perse. C'est la première attestation d'un lien donc, entre la chrétienté indienne et l'église de Perse syriaque orientale. Puis de nouvelles informations parviennent en 1293 par Marco Polo, qui visite, d'après ses dires, le tombeau de Saint Thomas à Mylapore. Puis, par la voie classique, c'est-à-dire le Moyen-Orient, l'église romaine parvint en Inde et Jordan Catelani est nommé le premier évêque du diocèse de Quilon, créé par le pape Jean XXII en 1329. Du côté de l'archéologie, on a quelques traces, des grandes pierres, crucifères couverts d'inscriptions en syriaque, qui datent vraisemblablement du 6e, 7e siècle. Mais on a, grâce au patriarche de l'église de l'Orient, hein, nous avons confirmation qu'à son époque, les chrétiens de l'Inde étaient sous sa juridiction, confiés localement à la sollicitude d'un archidiacre, terme qu'on va retrouver ensuite dans la suite de l'histoire. De nouvelles immigrations de chrétiens de Mésopotamie, fuyant un pouvoir musulman de plus en plus hostile, semblent peu après avoir renforcé encore sa communauté. Enfin, survint un moment capital dans l'histoire de la chrétienté de Saint Thomas. C'est en 1498 l'arrivée de Vasco de Gama, qui a ouvert, comme on l'a vu quelques années plus tôt, les nouvelles routes maritimes vers l'Inde, en doublant l'Afrique du Sud. Les Portugais commencent dès lors à s'installer dans la région. En 1510, l'amiral portugais Alfonso de Albuquerque bat les sultans de Bijapur et prit la tête d'une colonie permanente à Goa. Cette ville est devenue par la suite une base arrière de toutes les expéditions commerciales et militaires des Portugais en Extrême-Orient et également de l'expansion de son empire colonial en Asie. La ville et les territoires environnants resteront longtemps portugais et ne seront récupérés par l'Inde indépendante qu'en 1961. C'est également de Goa que partira Saint-François-Xavier et de nombreux autres missionnaires qui appellent après lui pour l'œuvre d'évangélisation du Japon, de Macao et des îles du Pacifique. Le 3 novembre 1534, le diocèse de Goa fut érigé et il est devenu le centre de l'évangélisation latine dans la zone. Et les Portugais affirmaient dès lors qu'ils avaient le droit de nommer tous les évêques de l'Inde. C'est pourquoi ils décidèrent que l'évêque des chrétiens de Saint Thomas devait également relever de l'évêque de Goa. Mais aux yeux des Portugais, ces chrétiens, qui dépendaient, comme on l'a vu, de la hiérarchie de l'église syriaque orientale, étaient donc réputés nestoriens et entachés par conséquent d'hérésie, comme leur église mère. Leur liturgie, leurs coutumes étaient profondément orientales, syriaques, mais aussi enrichies de vives colorations indiennes. Leur église était très acculturée dans le berceau local et entretenait de bonnes relations avec les communautés hindoues dont il était parfois difficile de les distinguer. En effet, ils avaient adopté la répartition en castes propre à la culture du sous-continent. Chaque fidèle était ainsi situé sur une échelle commune de statut, définie par opposition du pur à l'impur, opposition liée au cycle de vie, aux menstruations, à la commensalité, au contact avec les intouchables, etc. L'ensemble de ces groupes était d'ailleurs strictement endogame, c'est-à-dire que les mariages se déroulaient uniquement à l'intérieur de chaque groupe. Cette combinaison très originale entre valeurs chrétiennes et système de caste hindoue est d'ailleurs toujours actuelle dans une certaine mesure. Alors c'est dans cette perspective donc, de prise en main que les Portugais décident de convoquer un synode. Ce synode constitue un jalon capital dans l'histoire des églises chrétiennes en Inde. Après la mort du dernier métropolite nommé par le patriarche chaldéen, donc mort qui survient en 1597, l'archidiacre, responsable local de l'église, prit les rênes du diocèse. Dans le même temps, l'archevêque portugais Menezes, qui avait commencé à travailler à la fusion des églises, se donne la mission d'arrêter l'usage du syriaque et de changer les rites religieux pour ceux du rite latin. Son intention était de tenir un synode de prêtres et de placer les chrétiens syriaques sous le contrôle direct de Rome et de les persuader d'accepter la suzeraineté de son évêché. L'évêque Menezes et l'archidiacre ont alors convenu de convoquer le plus rapidement possible un synode. Alors, Menezes publia donc en mai 1599 une circulaire sur la tenue de la réunion qui devait se dérouler dans l'église de Tous les Saints à Undaiamperour. Les Portugais appellent de manière un peu plus facile à prononcer « Diamper ». Cette circulaire précise que le synode est organisé conformément aux pouvoirs qui lui ont été délégués par le pape Clément VIII et également en sa qualité de primat d'Orient. Elle précise également que l'archidiacre ainsi que les prêtres de toutes les églises et quatre laïcs élus par le corps général de chaque église devaient assister au synode. La circulaire indiquait également que le pouvoir de gouverner le diocèse de Malabar était désormais confié à l'archevêque de Goa. La circulaire devait être lue dans toutes les églises et collée sur leurs portes pour l'information des laïcs. Dès le deuxième jour du synode, Menezes a exigé que tous les participants fassent une déclaration publique de foi et d'allégeance. L'archidiacre fut le premier à mettre le genou à terre devant l'archevêque et les prêtres suivirent également. Toutes les choses liées à la foi, y compris les rites tels que le baptême, la confirmation, la sainte communion, la confession, les derniers rites, etc., ont été discutées au synode. La proposition de changer la langue des prières du syriaque au latin, sous prétexte qu'il contenait de nombreuses erreurs, dut toutefois être abandonnée en raison de la résistance déterminée du clergé. Il a cependant été résolu de rectifier les erreurs. Le synode a également discuté du transfert de propriété de l'intouchabilité, donc système de caste indien, du droit à l'héritage, de l'ordination, du mariage, des traditions, du style vestimentaire, de la célébration de la fête des moissons et autres fêtes hindoues, des distinctions communautaires, etc. Et adopté 24 décrets traitant de la vie sociale afin de rapprocher les mœurs des communautés aux standards chrétiens. Une copie en Malayalam, qui est la langue locale, hein, des décisions du synode, signée par l'archidiacre, a été envoyée à chacun des vicaires aux églises pour y être lue dimanche et ensuite conservée là-bas. Ensuite, à ce synode, les chrétiens de Malabar ont dû abandonner la tradition de Mar Thoma qu'ils suivaient depuis l'origine du christianisme. Donc, le nouveau système de domination des prêtres dans les églises a commencé immédiatement. Le mariage des prêtres a été interdit. Interdiction également faite aux chrétiens d'observer les coutumes hindoues et de célébrer les fêtes hindoues, comme on l'a dit, hein, Onam, qui est la grande fête des moissons, très populaire dans la région du Kerala. Ainsi, on peut considérer que c'est la date de création de l'église qu'on appelle aujourd'hui Syro-Malabar catholique. Alors bien sûr, suite à ce synode, nous allons commencer la longue suite des scissions au sein de l'Église indienne. L'archidiacre, ainsi, qui avait été pourtant partie prenante au synode, trouvait que les modifications allaient trop loin et il multiplia les protestations auprès de Rome. Parmi les fidèles grondait également un vent de révolte. Pour proclamer leur droit à une autonomie religieuse, le 3 janvier 1653, l'archidiacre et de nombreux prêtres, des centaines de fidèles, se lièrent ensemble par une corde à une croix et jurèrent de ne plus jamais qu'ils n'obéiraient aux jésuites et aux missionnaires, événement connu sous le nom de serment de la croix de Kunan. Une grosse majorité des chrétiens du Kerala suivirent leur pasteur naturel dans cette révolte. 4 mois plus tard, l'archidiacre Thoma se fit consacrer évêque par 12 prêtres. Les Portugais étaient assez décontenancés, d'autant plus que ces troubles affaiblissaient leur position, alors au moment où les Hollandais commençaient à arriver dans la région et disputer leur monopole. Rome eut la sagesse de recourir à la diplomatie des Carmes déchaussés, qui étaient eux-mêmes installés à Goa vers 1620 et qui entretenaient de meilleures relations avec les Syriaques. Ils parvinrent à amener un grand nombre de révoltés à la réconciliation et un évêque Carme fut consacré pour les Syro-Malabar. Celui-ci dut malheureusement s'exiler lorsque les Hollandais s'emparèrent de Cochin et de Cranganor en janvier 1663. Il eut toutefois le temps de consacrer un successeur, Malabar syriaque lui-même, Alexandre Palivetil, un ancien chef de la révolte, cousin de l'archidiacre. Alexandre, comme il sera appelé par la suite, premier évêque indien du Malabar et vicaire apostolique, parvint durant son long épiscopat, il mourut plus de 20 ans plus tard, à ramener la grosse majorité des dissidents dans l'union avec l'Église romaine, mais en les soustrayant au patronage portugais. Seules quelques paroisses syro-malabar restèrent sous la dépendance de l'archevêque portugais de Goa. Hélas, on ne donna pas de successeur indien à Mar Alexandre, qui fut remplacé par un évêque italien. Déçus, de nombreux fidèles se retournèrent vers l'obédience portugaise, d'autant que le Portugal, de son côté, nommait des évêques autochtones dès la fin du XVIIIe siècle. Le clergé y devint bientôt exclusivement local. Ainsi donc, deux juridictions catholiques rivales se livraient ainsi une compétition sourde qui ne prit fin qu'en 1886, lorsque le pape Léon XIII nomma deux vicaires apostoliques chargés de préparer la voie à une hiérarchie vraiment locale qui allait se mettre en place dans la première moitié du XXe siècle et donner à l'église syro-malabar catholique son profil actuel. Mais parallèlement, si plus de 100 églises avaient participé au synode de Diampère, certaines églises fort anciennes, fondées par saint Thomas, ne figuraient pas dans la liste des participants. Ainsi, elles n'ont pas reconnu les décisions du synode et ont fondé l'église orthodoxe de Malankara. Ainsi, les chrétiens de saint Thomas se sont divisés en deux groupes, division qui, hélas, n'en était qu'à leur commencement. C'est dans ce contexte troublé que le patriarche chaldéen catholique de Babylone, donc d'Irak, tenta au milieu du XIXe siècle de faire reconnaître sa juridiction sur les chrétiens syro-malabar, renouant donc avec la tradition de saint Thomas. Bien que cette église, il faut suivre, c'est pas toujours évident, elle-même était donc revenue dans le giron de Rome. Il entra à ce sujet violemment en conflit avec le Saint-Siège. Il envoya sur place deux évêques qui s'assurèrent d'assez nombreuses obédiences. Après rupture définitive avec Rome, les adhérents finirent par former une église rattachée à l'église assyrienne nestorienne, donc cette fois-ci autocéphale, revenant ainsi aux racines du christianisme malabar. Cette branche du christianisme devait encore se diviser au XXe siècle sur la question de l'adoption du calendrier grégorien par le patriarche de l'église mère de Mésopotamie. Ainsi fut créée l'église apostolique de l'Orient ou nestorienne vieille calendériste, à laquelle se rattachèrent quelques communautés indiennes. Alors, si la majorité des chrétiens révoltés à la suite du serment de la croix de Kunan s'étaient réconciliés avec Rome, d'autres restèrent irréductibles, avec à leur tête l'archidiacre, qui avait été consacré évêque. Une 30aine de paroisses les suivirent dans un schisme définitif. L'archidiacre chercha alors, par tous les moyens, à nouer le contact avec l'un ou l'autre des patriarches orientaux pour asseoir sa légitimité. il finit par obtenir une oreille attentive du patriarche syrien orthodoxe jacobite d'Antioche, qui diligenta un envoyé, lequel consacra solennellement l'archidiacre comme évêque métropolite sous le nom de Marthoma Ier en 1665. Ainsi naquit l'église syrienne orthodoxe de l'Inde, dite aussi église Syro-Malankar. C'est un cas tout à fait insolite d'une église issue de la tradition syriaque orientale, donc au point de vue théologique nestorienne, comme on l'a dit, mais qui s'est rattachée à la tradition syriaque occidentale, jacobite, dit donc aussi improprement monophysite, et en a adopté la liturgie. Cette branche fut également frappée du virus de la division, elle a donné naissance à deux églises rivales, l'église Malankar orthodoxe syrienne, qu'il ne faut pas confondre avec l'église Malankar syrienne orthodoxe. Il faut suivre, c'est un petit challenge. L'arrivée des Britanniques ensuite dans la région fin du XVIIIe siècle allait conduire à de nouvelles divisions. En effet, en 1795, ils prennent Cochin, début de leur installation. Sous leur impulsion, des missionnaires anglicans arrivent à Malabar dès 1816 et leur influence ne cessa de grandir grâce notamment aux écoles bibliques du dimanche, du fait qu'ils favorisaient l'usage de la langue locale, le malayalam, comme on l'a dit, au lieu du syriaque dans la langue liturgique et au système d'éducation anglais dont ils bénéficiaient. Progressivement, plusieurs dizaines de milliers de Syriens orthodoxes passèrent à l'anglicanisme et finalement, après bien des conflits, se créa en 1880 une église syrienne réformée dite le Marthoma. Cette église est aujourd'hui bien organisée avec un métropolite, des évêques et 700 000 fidèles appropriés, de nombreux collèges et des écoles et associations missionnaires actives. Elle connaît des turbulences internes assez semblables à celles qui secouent l'Église d'Angleterre aujourd'hui, entre tendances libérales et conservatrices. Et il y a eu également une dissidence d'orientation évangélique dans les années 60. À cela se rajoute donc, in fine, peut-on dire, au sein de l'Église syrienne orthodoxe, qui était donc divisé par des querelles infinies, comme on l'a vu, un mouvement favorable à la réunion avec le catholicisme, qui se développa au début du siècle sous l'impulsion de Mar Ivanios. Et qui aboutit en 1930 au retour à l'union avec le Saint-Siège, avec un grand nombre de religieux et tout, surtout un grand nombre de moniales et de moines. Nouvelle église orientale catholique était ainsi constituée, l'église Syro-Malankar catholique, à laquelle Pie XII donna une hiérarchie en 1932. Donc on le voit, le Kerala, bon, c'est un petit état de l'Inde, mais en Inde, tout ce qui est petit est finalement assez grand, qui a une quarantaine de millions d'habitants quand même. Donc ce Kerala aujourd'hui est devenu une véritable mosaïque d'églises, qu'il est bien difficile de rendre compte de cette complexité assez affligeante entre les confessions des églises. Ces divisions ne doivent pas occulter toutefois la grande vitalité de ces communautés. La plupart de ces communautés sont toujours évangélisatrices, sont très présentes au niveau social, ont des écoles extrêmement performantes, etc. Alors, on va essayer de faire une récapitulation rapide de l'ensemble de ces églises d'Inde. Une rapide récapitulation. D'abord, on peut les regrouper en trois grands ensembles, trois grandes familles. Les églises dites orientales orthodoxes, les églises orientales catholiques et les églises réformées. Alors, les églises orientales orthodoxes qui regroupent actuellement environ 2 millions de fidèles pour l'ensemble de ces églises sont au nombre de 4. L'église syrienne de l'Orient en Inde, entre guillemets nestorienne, dite aussi église Syro-Malabar orthodoxe, qui est donc de liturgie syrienne orientale. Elle puise donc ses racines dans l'époque apostolique. Elle ne compte aujourd'hui guère que 15 000 fidèles et elle est aujourd'hui divisée, comme on l'a dit, en deux branches. L'une fidèle au patriarche de l'église assyrienne de l'Orient, Mardinka IV, qui réside à Chicago, donc dans la diaspora. L'autre au patriarche de l'église apostolique de l'Orient, Mar Adai II, qui réside à Bagdad. Ces deux branches de l'église sont aujourd'hui dans la bonne voie d'une réconciliation, dans la mesure où la division, comme on l'a dit, repose uniquement sur la question calendaire. Donc il y a eu, donc, dans les années 60, une décision d'adopter le calendrier grégorien, qui est le même calendrier que l'Église catholique. Et donc une partie de l'Église a refusé, demeurant sur le calendrier julien, où il y a donc un décalage de quelques dizaines de jours entre les deux calendriers. Deuxième Église, l'Église Malankar syrienne orthodoxe, dite jacobite patriarcale. Elle est donc de rite, elle, syrien occidental, antiochien. Elle compte environ 1 million de fidèles avec la diaspora. 10 métropolites et évêques de cette église dépendent actuellement de la juridiction directe du patriarche syrien orthodoxe d'Antioche. Enfin, une église Malankar orthodoxe syrienne, qui est jacobite, mais autonome, autocéphale. Elle est également donc de rite syrien occidental et elle compte environ 1 million de fidèles. Son chef actuel est sa sainteté Moran Basilios Marthoma Mathieu II, catholicos de l'Orient et métropolite de l'église Malankar orthodoxe syrienne, qui est réputée être le 89e successeur du trône de saint Thomas l'apôtre. Et enfin, l'église syrienne Malabar indépendante, qui est une petite église qui a conservé ses rites orientaux, mais qui est en relation très étroite avec l'église réformée Marthoma, donc anglicane, dont le chef de cette église consacre lui-même les évêques de cette petite église. Donc, deuxième grande famille, les églises orientales catholiques. Numériquement, l'église catholique est de loin la plus importante du Kerala, avec près de 5 millions de fidèles. Ils sont répartis en 3 églises principales. L'église Syro-Malabar catholique, avec 3 millions de fidèles. Alors, il y a de nouvelles chamailleries liturgiques entre les tenants de rites plus ou moins latins, plus ou moins modernes, qui occupent encore les esprits. Un synode régional tenu début 1996 à l'initiative du pape Jean-Paul II n'a pas apaisé les choses. De plus, les relations entre l'église Syro-Malabar catholique et l'église latine en Inde ont été souvent très tendues, surtout en ce qui concerne la possibilité d'établir des juridictions Syro-Malabar en dehors du Kerala. La situation n'est donc pas complètement apaisée, loin s'en faut. Deuxième église, l'église Syro-Malankar catholique. Cette église compte environ 300 000 fidèles répartis en 4 diocèses. La liturgie est celle du rite syrien occidental et antiochien dit de Saint-Jacques. La langue liturgique est le syriaque, mais les célébrations dominicales se réalisent en malayalam, la langue donc du Kerala. Enfin, les catholiques latins au Kerala, donc des catholiques non orientaux, qui pour la plupart sont des hindous convertis par des missionnaires occidentaux. Ils représentent tout de même 1,3 million de fidèles. Syriaque et latin ne forment toutefois pas de communauté homogène. Ils ont chacun leurs propres évêques, leurs propres églises, et cette ségrégation se reflète même dans la vie sociale. Les Syriaques s'assimilent plutôt aux hautes castes hindoues, comme on l'a vu, avec une endogamie très stricte, et ils sont économiquement plutôt dans les classes favorisées, alors que les catholiques latins appartiennent plutôt aux classes populaires et laborieuses et sont souvent partie des castes inférieures, voire des intouchables. Troisième grande famille. Les églises réformées. Alors, d'abord, l'église syrienne réformée de Marthoma. Elle a rejoint la communion des églises anglicanes en 1974. Elle est forte de 700 000 fidèles, plus de 800 paroisses. Elle étend également son rayonnement dans la diaspora, en particulier en Asie, en Malaisie, à Singapour, dans le golfe Persique, et même en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Elle donc créé un certain nombre de communautés donc assez importantes. Deuxième église. L'église évangélique de Marthoma en Inde. Cette église fut fondée en 1961 lorsque 12 prêtres, dissidents de l'église syrienne de Marthoma consacrèrent 2 évêques. Cette petite église fut elle-même très tôt victime de tensions et se sépara en 2 groupes distincts. Donc on l'a vu, c'est une tendance plutôt évangélique. Donc il se sépare en 2 églises, l'Evangelical Fellowship et la Saint Thomas Evangelical Church. Ensemble, elle ne compte environ que 20 000 fidèles. Et enfin, l'église d'Inde du Sud, Church of South India, qui est une église purement protestante, qui a abandonné les traditions liturgiques orientales, mais la plus grande partie des fidèles proviennent des communautés syriaques, apostoliques, donc qui se sont converties. Elle compte environ 60 000 fidèles. Elle est née directement de l'action des missionnaires britanniques au 19e et 20e siècle et fut officiellement constituée le 27 septembre 1947. Alors on voit cet énorme foisonnement quelles leçons peut-on tirer de cette situation ? Il me semble qu'il faut constater d'ailleurs que de façon parallèle aux autres églises orientales que nous avons un peu étudiées ensemble lors de nos précédentes émissions, l'irruption de l'Occident dans sa région a eu des effets délétères de manière assez différente, puisqu'on a vu les églises du Moyen-Orient et du Proche-Orient ont souffert numériquement de persécutions extrêmement violentes, de massacres, etc. Ça n'a pas été le cas en Inde, mais de la même manière, c'est quand même l'irruption de l'Occident, et en particulier donc le synode de Diyamper, qui est à l'origine de scissions permanentes. On avait donc une communauté, une église demeurée unie pendant 1500 ans, et qui a éclaté aujourd'hui en de multiples chapelles, dès la rupture avec sa chaîne traditionnelle. Donc, voilà l'abandon brusque, et même brutal, peut-on dire, de la tradition, de la chaîne traditionnelle de l'Église d'Inde, a abouti à son éclatement, comme on dit dans un film célèbre, façon puzzle. C'est sans doute une leçon à retenir hein, pour les fidèles catholiques, que cette rupture de la chaîne traditionnelle aboutit finalement à de multiples divisions.
Eh bien, quelle histoire mouvementée, Philippe Comte.
J'admets qu'il est assez difficile de s'y retrouver, que, avec des noms très proches et des filiations apostoliques assez proches. Il faut s'attacher un petit peu à suivre les choses.
Il faut s'attacher. Eh bien, c'est l'inextricable matière humaine dans laquelle doit se frayer un chemin l'Évangile et la grâce. Eh bien.
En tout cas, ce sont, malgré tout, le côté positif, c'est que l'ensemble de ces communautés restent très, très, très vivantes et donc continuent leur activité évangélisatrice dans toute la région.
Et bien implanté, vous nous l'avez dit aussi, ouais. Avec des écoles de qualité, des ordres religieux aussi qui sont.
Et donc une implantation dans la diaspora aujourd'hui qui est quasiment mondiale, comme beaucoup d'églises orientales hein, qui sont presque plus présentes dans la diaspora que dans la région d'origine.
Ah, ben Philippe Comte, merci de nous avoir fait découvrir donc l'église de l'Inde du Sud, c'était l'église de Saint Thomas, Siro Malabar, Siro Malankar. Et pour le reste, eh bien, il y a le podcast. Merci beaucoup.
Merci à tous.
Chers auditeurs, c'était notre émission Les Églises d'Orient avec Philippe Comte. Il y était question de l'église de l'Inde du Sud. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.